En fait, moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, là, juste pour une question pratique, c'est pour ça que j'ai demandé l'âge. C'est parce que j'ai quand même entendu que par rapport aux élèves qui ont moins de 18 ans, étant entre 15 et 18, si j'ai bien compris, effectivement, il y a quelque chose où, pour reprendre ce que Cédric disait, il n'y a pas tout pouvoir. Hein, c'est impossible. Parce que vous devez rendre des comptes aux parents. Parce que les parents sont, de manière, je dirais... ils sont tuteurs de leurs enfants, ils en sont responsables, et en plus, ils peuvent aussi, effectivement, vous rendre responsable d'un trouble, d'un malaise. Et puis, entre 15 et 18 ans, c'est aussi l'âge hein, des troubles, des malaises. Enfin, l'adolescence, c'est quand même pas... Bon, sans aller jusque-là, peut-être qu'on en reparlera après, mais moi, en vous écoutant, j'entends que, d'abord, c'est une école, donc c'est normal qu'il y ait du pouvoir, parce que les écoles fonctionnent toujours sur le rapport dominant-dominé. Point barre. Tant qu'on n'a pas changé ça... ça ne change pas. En revanche, l'expérience de Sophie, ça me fait penser... Enfin, les mots sont les mêmes pour décrire les expériences pédagogiques freinées, par exemple. C'est-à-dire, en fait, où on a bousculé complètement les cadres de l'école traditionnelle, classique, éducation nationale, etc., pour produire un lieu... pour fabriquer un lieu d'enseignement où jamais l'enfant n'est dévalorisé parce qu'il ne sait pas... Parce qu'en fait, tous les enfants ont du talent. C'est pas les mêmes talents. Et en fait, ce qui est souligné, et ce que j'ai entendu dans ce que tu disais, c'est la singularité de chacun. Et la bienveillance, elle vient par surcroît. Parce qu'effectivement, je pense que tu as raison, quand plus on te pousse, plus finalement on te porte aussi. C'est important, mais c'est ça l'école freinée, enfin les écoles parallèles. Donc là, c'est guider, mais pas... comment dire, commander
ni montrer
ni, oui, et puis pas être avoir la science infuse, etc., dire c'est moi qui commande, c'est moi qui t'apprends, toi tu sais comment, c'est différent. Et du coup la question est de savoir si l'adolescent par exemple entre 15 et 18 ans, qu'est-ce qui va se passer si jamais face à une expérience à laquelle il va participer parce qu'il est passionné, parce qu'il aime ça, parce qu'il a envie, parce qu'il n'est pas là par hasard, je veux dire cet adolescent là, qu'est-ce qui se passe si il s'effondre moralement, ça peut être l'espace d'un instant, ça peut être très critique, même sur un plateau, dans le cadre, je ne sais pas moi, d'un exercice théâtral, il peut effectivement, on va dire, décompenser, s'effondrer, je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose de lui qui va se briser momentanément. J'ai observé ça dans des lieux à risque aussi, que sont les ateliers d'écriture, que certains écrivains font avec des adolescents, des jeunes adolescents, 13, 14, 15 ans, des ateliers d'écriture où aussi on va chercher quelque chose d'extrêmement intime. Et l'adolescent a un rapport difficile avec l'intime parce que cet intime lui est radicalement inconnu, lui fait terriblement peur, ne lui est pas familier du tout puisque c'est nouveau, hein, on en a parlé hier. Et du coup, il a peur. Et du coup, quand on va chercher l'intime avec l'ado... on prend toujours un risque, et au théâtre, vous prenez ce risque-là, de toute façon, comme un écrivain en atelier d'écriture. Et j'ai observé un jour, c'était un moment privilégié pour moi, l'écrivain Ahmed Kaloise, qui habite dans le coin d'ailleurs, je crois, qui a écrit très beau texte, qui fait beaucoup d'ateliers d'écriture avec des ados, il m'a invité à être là, comme ça, pour voir, avec évidemment l'assentiment des adolescents qui participaient à son atelier. Et j'ai vu une adolescente s'effondrer avec lui. Mais vraiment décomposée par une douleur morale profonde, exprimant beaucoup avec des sanglots. Enfin, c'était évident la tristesse, je dirais pas le désespoir, parce que je la connais pas, cette fille, je sais pas ce qui lui est arrivé là. Peut-être ça avait un rapport avec ce qu'elle avait écrit, ce qu'elle avait ressenti violemment, une émotion, débordement émotionnel donc. Et puis j'ai vu Ahmed se lever, aller s'asseoir à côté d'elle. C'était en plus comme c'était dans un théâtre, il y avait justement un bord de scène comme ça. Il était assis à côté d'elle, extrêmement bienveillant, et en disant « Tu vas voir, ça va se passer, c'est important ce que tu as écrit. C'est très important ce que tu as écrit, c'est très beau. » C'était pas obligé de le lire, parce qu'il y avait l'idée de lire après à haute voix ce qu'ils avaient écrit. J'ai trouvé dans... En fait, Ahmed, à aucun moment, n'a douté. Ni du bien fondé de l'émotion de l'adolescent, ni de cet exercice difficile auquel elle s'était confrontée, et dans sa propre histoire, et dans son propre éprouvé subjectif. Et en fait, ça me fait penser à ça, parce que je pense qu'au théâtre, il peut se passer la même chose, non ?
Oui.
Voilà. Ben, c'est pas dramatique, hein.
Je crois que c'est
la
bon.
Vie, je veux dire. Ouais. On fait pas du théâtre non plus pour rester sur son quant à soi, il me semble. Après, le problème, c'est les parents, hein.